Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous sommes heureux de pouvoir, une fois de plus, vous souhaiter de joyeuses et de saintes Pâques. Mais pour participer vraiment à la joie de Pâques, ne devons-nous pas participer aussi à l'esprit de l'Église qui fête Jésus ressuscité et le faire dans son esprit? Nous avons préparé cette fête magnifique depuis 8 jours au cours de cette sainte semaine. Et nous avons déjà chanté la gloire de celui qui est notre Rédempteur et notre Sauveur. Après les heures douloureuses de la Passion, sont venues ces heures triomphantes de la Résurrection. L'Église l'a exprimé. Elle a exprimé particulièrement au cours de cette nuit pascale, à l'occasion de la consécration du cher Cierge pascal. Il est dit de notre Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, principium et finis. Que peut dire l'Église de plus parfait, de plus infini? Notre Seigneur, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de toutes choses. Ainsi, l'Église affirme solennellement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, au cours des jours qui ont précédé ces affirmations de l'Église, nous avons lu dans les récits de la Passion qu'à vrai dire, l'objection majeure, principale de ceux qui se sont opposés à Jésus et qui l'ont crucifié, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ disait précisément qu'il était Dieu. C'est cela que Anne et Caïphe ont demandé à notre Seigneur. Dites-nous enfin, dites-nous, êtes-vous Dieu? Oui, je le suis. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Au lieu de s'incliner, au lieu de croire au Messie, au lieu de croire qu'il était Dieu, ils l'ont crucifié. Ils l'ont fait mourir. Montre-nous si tu es vraiment Dieu. Descends de la croix et nous croirons. Toi qui as ressuscité des morts, descends de la croix et nous croirons. Les misérables. Lui qui venait de ressusciter Lazare, ne pouvait-il pas se ressusciter lui-même? Ils ont eu peur, d'ailleurs, de cette solution, et ils ont gardé le tombeau. Et ils ont cru, en définitive, à sa résurrection, mais ils n'ont pas cru à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont payé les gardes pour dire que les apôtres étaient venus chercher le corps pendant qu'ils dormaient. Et comme dit si bien saint Augustin, comment pouvait-il savoir que les apôtres étaient venus le sauver, venus le chercher, s'il dormait? Ainsi, en même temps que l'Église et que le ciel proclame la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il la proclame lui-même, la parole de saint Jean n'est que trop vraie. Il est venu chez les siens et ne l'ont pas reçu. In propria venit et sui eum non receperant. Ils ne l'ont pas reçu. Dieu venu parmi nous, le principe et la fin, le créateur de toutes choses, celui qui a fait tous les esprits, tous les hommes, tout le monde matériel, vient pour nous sauver, et il n'est pas reçu. Et en effet, C'est toute l'histoire de l'Église qui va se dérouler devant nous pendant 20 siècles bientôt. Nous verrons l'opposition à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par toutes les manières possibles et imaginables. Par contre, l'Église remplie de cette foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est saint Paul qui le dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Inutile de croire en notre Seigneur Jésus-Christ s'il n'est pas ressuscité, parce que sa résurrection est le témoignage irréfragable de sa divinité. Alors l'Église croit en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle croit en son triomphe ici-bas et dans l'éternité. Et c'est pourquoi l'Église parcourt le monde avec ses missionnaires pour prêcher la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle rencontrera ceux que les apôtres ont rencontrés dans cette prédication. Saint Paul à Corinthe a prêché notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est arrivé à la résurrection et qu'il a dit « Cet homme, Dieu, est ressuscité. Oh bien, vous nous parlerez de cela une autre fois. Nous vous entendrons une autre fois. » Ils n'ont pas voulu croire. Cependant, disent les Actes des apôtres, quelques personnes s'attachèrent à saint Paul et le suivirent, et écoutèrent et se convertirent. Et il en est ainsi pendant toute l'histoire de l'Église. Les apôtres ont prêché, les prêtres ont prêché, les missionnaires ont prêché, certains ont entendu, ont cru, d'autres n'ont pas cru. Et alors tout au cours de l'Église, tout au cours de l'histoire, l'Église a voulu maintenir cette foi. Elle a tout fait pour que cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa divinité, qui est le salut de nos âmes, se maintienne, se confirme, se consolide. Et c'est pourquoi, lorsque des peuples entiers se convertissaient, elle suppliait les princes de bien vouloir l'aider à organiser dans ces pays des universités catholiques, d'aider à l'implantation des monastères, des institutions religieuses, d'institutions chrétiennes, d'écoles catholiques. Et ainsi, l'Europe s'est couverte de ces témoignages de la foi, non seulement des papes, des évêques, des prêtres, mais aussi des rois et des princes qui ont aidé à l'implantation de l'Église catholique et qui protégeait la foi des fidèles. Et l'histoire des croisades n'est pas autre chose que la protection de la chrétienté par les princes. Et le Saint-Louis, roi de France, lorsqu'il est parti pour accomplir sa croisade, avait bien plus que le désir de délivrer le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, il avait le désir de convertir les musulmans. Et il avait toujours l'espoir de pouvoir approcher les sultans et de, par la grâce du bon Dieu, de les convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme cela, d'ailleurs, qui, lorsqu'il avait conquis Damiet et qu'il espérait rencontrer le sultan, il priait pour la conversion du sultan. Malheureusement, loin d'accéder à son désir, le sultan, au contraire, attaqua les troupes de la croisade et même fit prisonnier Saint-Louis, qui ne put se délivrer qu'en donnant de nouveau la ville de Damiet et en payant une somme considérable pour délivrer son armée. La même chose lorsqu'il était allé à Tunis. Il espérait aussi pouvoir convertir le sultan. Malheureusement, les maladies de ces pays terribles, la peste, le choléra, a atteint toutes les troupes et Saint-Louis lui-même, et il est mort. Il est mort dans l'espoir que sa mort convertirait les musulmans. Voilà la foi de nos princes catholiques, missionnaires, et en même temps défendant la foi dans leur pays. L'Église les a toujours encouragés, et les papes ont toujours félicité les chefs d'État qui protégeaient la foi de leurs fidèles. C'est ainsi que pendant 20 siècles, la chrétienté s'est constituée et s'est développée dans le monde entier. Mais les forces du mal sont puissantes et le bon Dieu a permis que ces forces sataniques finissent par pénétrer à l'intérieur même des États chrétiens, à l'intérieur de ces grandes familles que constituaient les États catholiques, ces grandes familles catholiques, ces grandes familles chrétiennes, que la zizanie se met à l'intérieur par le protestantisme. Et ils ont fini par détruire ces États chrétiens en décapitant les rois, en ruinant les États catholiques. Ainsi que les principes de la Révolution en 89 ont pénétré maintenant dans toutes les institutions, partout, et minent la foi catholique partout, dans toutes les familles, jusque dans les séminaires, jusque dans l'Église, jusque dans le clergé. C'est ce qu'a dit Saint Pie X. Nous voyons que maintenant, l'ennemi n'est pas seulement en dehors de l'Église, mais il est à l'intérieur. Et où est-il? Se demandait-il lui-même. Il est dans les séminaires, disait-il. Et c'est pourquoi il demandait aux évêques de chasser tous les professeurs qui étaient des modernistes, de ne pas les laisser dans les séminaires afin de ne pas faire pénétrer les idées erronées, les idées fausses à l'intérieur des séminaires. Si les idées de la Révolution, les idées contraires à la foi catholique pénètrent à l'intérieur des séminaires, de ces séminaires sortiront des évêques un jour, des prêtres, des évêques. Et alors, que deviendra l'Église? Eh bien, mes bien chers frères, nous sommes à cette époque aujourd'hui. Cette pénétration de l'ennemi, cette pénétration de l'esprit de l'erreur, cette pénétration de l'esprit anti-catholique est maintenant partout, à l'intérieur de l'Église. Partout. Et alors, chose stupéfiante, incroyable, ceux qui ont la responsabilité dans l'Église ont décidé désormais de ne plus agir comme l'Église et les missionnaires ont fait pendant 20 siècles. De ne plus défendre la foi catholique par les missions et en demandant aux chefs de famille et aux chefs d'État de venir au secours de l'Église catholique et de la défendre et de la protéger. Ils ont décidé désormais de faire un pacte de paix avec les ennemis de l'Église. Et ce pacte de paix s'appelle l'œcuménisme, s'appelle la liberté religieuse. Désormais, c'est fini. La paix, la paix, la paix. La paix avec qui? Avec qui? Avec les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ceux qui l'ont crucifié. Avec ceux qui ont continué de le crucifier pendant 20 siècles. Dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, chez les fidèles, il y a eu des martyrs, mais encore de nos jours. Et des millions de martyrs, il y en a encore aujourd'hui dans les géoles russes, parce qu'ils sont catholiques. Et la haine de Jésus-Christ, la haine de l'Église, malheureusement, nous sommes bien obligés de le constater, existe encore. Ces jours-ci, vous avez pu lire dans les journaux les propos contenus, les protestants de Genève, contre la venue d'un évêque catholique à Genève. il y a 3-4 jours. Pas vieux. Une opposition radicale, absolue. Nous ne voulons pas d'une hégémonie catholique à Genève. C'est l'ennemi. L'ennemi est là, partout. Dès que l'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'on manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des oppositions. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais que l'Église, du moins que les hommes d'Église, que ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, fassent maintenant un pacte avec ceux qui sont les, qui ont été les ennemis de toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'une gravité exceptionnelle. On leur dit aux ennemis, vous pouvez venir chez nous maintenant, librement. Nous n'allons plus vous empêcher de venir dans nos familles catholiques, dans nos institutions catholiques, dans nos états catholiques. Nous ne vous empêchons plus de venir. Venez, musulmans, bouddhistes, venez, venez, vous serez bien accueillis, et même éventuellement, nous vous construirons des mosquées, nous vous donnerons des écoles, nous vous recevrons dans nos écoles, on ne fera plus le signe de la croix dans nos écoles catholiques pour ne pas vous blesser, et si on ne parlera même plus de notre Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que tous, juifs, protestants, musulmans, bouddhistes, vous pourrez venir dans nos écoles, vous êtes largement accueillis. Pourquoi cela? Pourquoi, soi-disant, parce que désormais, alors, on demandera la même chose aux musulmans, aux communistes, et à tous les états totalitaires. On leur dirait, ben maintenant, puisque nous avons accepté, nous, toutes les idéologies, toutes les fausses idéologies, tous les ennemis, même de l'Église, nous les acceptons autour de nous, nous les appelons maintenant des frères. Ben, faites-en autant avec nous. Ouvrez vos portes, musulmans, ouvrez vos pays, communistes, ouvrez votre pays pour que nous puissions proclamer notre foi. Illusion totale. Ce sont des ennemis jurés de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ce qui se passe au Liban. Les catholiques finiront vraisemblablement par être jetés à la mer par les musulmans, par esprit antichrétien. C'est ce principe qui a désormais été adopté par l'Église. Et principe que l'Église, du moins que ces hommes d'Église, veulent fonder sur une raison naturelle, sur ce qu'ils appellent la dignité humaine, sur les droits de l'homme. C'est mettre l'erreur et la vérité sur le même niveau. C'est donc la destruction totale de l'Église. Et nous assistons peu à peu à cette infiltration des erreurs. Et aux erreurs correspond la moralité et l'immoralité. Et par conséquent, à l'immoralité à l'intérieur même de nos familles. Mes chers frères, vous pourriez donner, vous, des exemples concrets, peut-être dans vos familles propres, peut-être chez vos parents, nous tous, dans nos familles, nous faisons la constatation d'une infiltration de l'immoralité, ou de l'athéisme, ou même des enfants qui partent dans les sectes. Et l'avortement, et le divorce, et la contraception qui se multiplient partout, dans tous nos villages, qui étaient autrefois des villages catholiques. Mais il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais en 1945-47 supérieur du séminaire de Mortain, j'allais souvent, pendant des fêtes, comme les fêtes de Pâques, confesser dans les villages. En Normandie, en France, eh bien, dans la plupart des villages de Normandie, il y a donc, disons, bientôt 40 ans, on montrait du doigt ceux qui ne pratiquaient pas. dans les villages. Ils étaient connus, un tel ne pratique pas, mais tout le village pratiquait. Le village pratiquait entièrement. Allez voir maintenant. Quelques personnes à l'église, quelques personnes qui se confessent, c'est la ruine de la religion chrétienne, de la religion catholique. Ces mauvais exemples, ces mauvaises idées qui circulent partout et qui sont colportées par tous les moyens de communication sociale détruisent la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable a réussi là une opération sensationnelle pour lui, sensationnelle. Faire la paix avec les ennemis de l'Église, leur permettre d'entrer partout, chez nous, c'est la fin de l'Église catholique. Le but de Satan est la destruction de l'Église catholique, et la destruction de l'esprit catholique, la destruction de la foi catholique. Eh bien, il a maintenant toutes les portes ouvertes. Alors nous résistons. Nous disons non, il ne passera pas. Il ne passera pas. Nous voulons continuer comme l'Église a fait autrefois. Défendre nos familles, défendre nos cités, défendre nos villages. Et s'il le faut, constituer des chapelles pour nos familles. Faire des écoles où notre Seigneur Jésus-Christ sera le maître, le roi. Et si d'aventure il y a un petit protestant ou un petit juif qui veut venir dans notre école, eh bien, il apprendra le catéchisme comme les autres. Et s'il ne veut pas, il n'a qu'à pas rester dans nos écoles. C'est ce que nous faisions à Dakar, lorsque nous avions des musulmans dans nos écoles. Lorsqu'ils étaient peu nombreux, ils acceptaient d'apprendre le catéchisme. Il y avait quelquefois un petit enfant musulman qui était le premier en catéchisme dans sa classe, mais qui malheureusement ne pouvait pas communier et qui pleurait le jour de la communion parce qu'il ne pouvait pas suivre les autres qui allaient communier. Mais si nous avions seulement eu la pensée de donner la communion à cet enfant et par conséquent de le baptiser, les musulmans auraient mis le feu à notre école. Pas question. Baptiser un enfant musulman. Bien, nous devons maintenir cette foi catholique, protéger nos familles. Et pour cela, reconstituer ce tissu des institutions chrétiennes, cette ambiance des institutions chrétiennes, les monastères, monastères contemplatifs, de religieux, de religieuses, n'est-ce pas, pour donner cette atmosphère catholique dans laquelle nous respirons, alors que nous sommes asphyxiés dans le monde moderne, avec la disparition de toutes les institutions catholiques. Même les institutions dites catholiques ne sont plus catholiques. Et peu à peu, nous pouvons dire en vérité que les prêtres et les évêques ne sont plus catholiques, parce qu'ils ne veulent plus défendre la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient plus en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. S'ils croyaient, comme l'Église l'a chanté tous ces jours-ci, que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est le Sauveur, qu'il est notre Dieu, que dans quelques années nous nous retrouvons tous là-haut devant lui, dans sa splendeur, comme les apôtres sur le Tabor, nous le verrons, dans sa magnificence, dans son règne éternel. Eh bien, nous aurions le désir, automatiquement, de répandre cette foi autour de nous et de faire en sorte que le plus de personnes possible puissent suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son ascension vers le ciel, dans sa résurrection, dans son ascension. Voilà l'esprit de l'Église. Alors gardons fermement cet esprit de l'Église. Et voyez-vous, c'est pourquoi nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour essayer de restaurer cet esprit de l'Église à Rome même. Oui, à Rome même. Parce que cet esprit de l'Église n'existe plus, même à Rome. La journée d'assises l'a manifesté clairement. Alors nous supplions le Saint-Père, nous supplions les cardinaux de Rome de revenir à la tradition, de revenir à la foi en Jésus-Christ ressuscité, seul salut, seul moyen, seul roi, seul moyen d'être sauvé. pas faire de pacte avec les ennemis de l'Église. C'est pas possible. C'est la fin de l'esprit missionnaire. Alors nous avons, vous le savez, envoyé à Rome nos objections, justement, à cet esprit nouveau d'un pacte avec les ennemis de l'Église, qui n'est autre que la liberté religieuse et l'œcuménisme. Nous avons envoyé 150 pages d'objections il y a un an et demi, et nous avons reçu la réponse à ces objections il y a 3 semaines. 50 pages qui nous ont été renvoyées de réponses à ces objections, d'une manière très sereine, très sereine. Nous n'avons pas voulu faire de polémique, et Rome n'a pas voulu faire de polémique à notre égard. Les réponses sont très sereines. Mais hélas, elles ne sont que la confirmation de cette liberté religieuse et cet œcuménisme. Confirmation formelle. Absolument contraire à ce que les papes Pie IX et les 11 papes qui ont régné depuis la Révolution française, depuis les principes de 89, ont condamné. Car ces affirmations que nous avons reçues encore ces jours-ci de Rome ne sont pas autre chose que l'acceptation des principes de 89 dans l'Église. Condamnés par 11 papes. Comment voulez-vous que nous puissions, que l'Église puisse continuer dans une situation pareille? C'est pas possible. On ne peut pas accepter la liberté de pensée, la liberté de religion, la liberté, toutes les libertés humaines. Ça va contre la loi du bon Dieu. Pas possible. Alors nous avons bien le désir de répondre à nouveau et de chercher à montrer les erreurs qui sont dans ces réponses. C'est une chose très grave. Nous le faisons vraiment comme un devoir de conscience dans l'histoire de l'Église, car nous vivons là des heures dans l'Église excessivement importantes qui préparent, si elles continuent, la venue de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist ne trouvera plus d'objection devant lui, il n'y aura plus rien qui l'empêchera d'être le roi du monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, dans quelques mois, nous espérons publier un livre qui aura pour titre « Ils l'ont découronné ». Ils l'ont découronné. Oui, mes bien chers frères. Ils ont découronné notre Seigneur Jésus-Christ. Notre roi. Celui qui doit régner. Celui qui, sans le règne duquel nous sommes perdus, il doit régner. Oportet illum regnare. Eh bien, nous pensons que malheureusement, ceux qui continuent dans les principes de 89 et qui veulent adopter les principes de 89 dans l'Église découronnent notre Seigneur Jésus-Christ. Les persécutions qui ont eu lieu contre les catholiques à cette époque le manifestent suffisamment et après, selon les principes de 89. Alors, demeurons fermes dans la foi et demandons à la Vierge Marie, la Reine du monde, la Mère de Jésus, elle qui est forte comme une armée rangée en bataille, de venir à notre aide pour continuer, sans faillir, sans faiblesse. Encore une fois, comme vous avez fait à Sion, je vous en félicite, vous avez construit une église où Jésus-Christ sera prêché dans toute son intégrité, dans toute sa foi aride. Bientôt vous aurez une école à Salvan. Eh bien, je vous en félicite de tout cœur. Vous protégerez ainsi aux familles du Valais, ce Valais qui fut si catholique, qu'il y avait des vocations dans toutes les familles, qui en envoyaient dans tous les pays de mission. Le voilà que, par l'esprit du Concile, le Valais n'est plus un État catholique. C'est un État neutre, qui désormais admet aussi bien le protestantisme que le catholicisme. Eh bien, c'est là une chose très grave pour le Valais. Et vous en voyez d'ailleurs les conséquences, par la moralité, et l'immoralité qui se répand partout aussi dans vos villages. Alors, ne craignons pas d'être en quelque sorte en marge, apparemment, de l'Église officielle, mais nous sommes membres de l'Église catholique et romaine, même si ceux qui occupent les sièges épiscopaux actuellement nous estiment comme presque hors de l'Église. Pas du tout. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église catholique. Ce sont eux qui sont en train de s'éloigner de l'Église catholique et qui ne prêchent plus la véritable doctrine de l'Église. Alors, prions la très sainte Vierge Marie qu'elle nous garde dans cette foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.